Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
Sur Radio Présence, bienvenue, vous êtes à l'écoute de Soif d'autre chose, votre émission présentée par la paroisse étudiante. Très heureux d'être parmi vous pour vous accompagner pour ce début de soirée avec moi, comme chaque lundi, Louis-Marie. Bonsoir Louis-Marie.
Bonsoir à tous, content de vous retrouver.
Et oui, très content parce que ça faisait un petit moment, il s'en est passé des choses, des vacances aussi hein, qui ont été bien méritées, n'est-ce pas ?
Oh que oui.
Au programme Louis-Marie, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui dans cette émission ?
Alors, deux chroniques par votre serviteur, un entretien qu'on avait réalisé à la rentrée sur le thème des jeux vidéo et évidemment de la musique.
De la musique, bien sûr, comme chaque soir pour démarrer ce début de soirée à l'écoute de Radio Présence. C'est Soif d'autre chose jusqu'à 20h et tout de suite un peu de musique. Et on prend l'antenne avec Amoureux de ma femme sur Radio Présence. Très bonne soirée.
J'avais un oiseau sur mon épaule. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme.
Bizarre, c'est tout à fait normal.
Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme.
Es-tu vraiment dans son état normal?
J'ai envie de l'embrasser, besoin de la caresser. Sans me piquer au cœur une merveilleuse et tendre douleur. Comme un collégien, je suis amoureux de ma femme.
Est-il vraiment sérieux?
Je la trouve belle, je la chante sur toute la gamme.
C'est comme ça quand on est amoureux.
Demain je brise les ponts, je prends deux billets d'avion et je vais me l'emmener prendre des vacances en jeune marié. Depuis longtemps déjà n'existait plus rien. Nous restait seulement la presse en commun. Et souvent s'installait au fond de mon cœur pour un jour de un nouveau bonheur. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique amour. C'est drôle, aujourd'hui je suis amoureux de ma femme.
Ouais, bizarre, c'est tout à fait normal.
Comme au premier jour je suis amoureux de ma femme.
Vraiment dans son état normal.
Je me sens prêt à passer 3 jours à rester couché. 3 jours à lui faire l'amour. 3 nuits sans dormir. 3 jours sans sortir. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique amour. Quelle chance, aujourd'hui je suis amoureux de ma femme.
h 04 tout pile sur Radio Présence, vous êtes toujours à l'écoute de Soif d'autre chose, votre émission présentée par la paroisse étudiante. Et on retrouve Louis-Marie. Alors Louis-Marie, on retrouve avec vous le calendrier liturgique et il s'en est passé quand même des choses ces derniers temps.
Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. Bon, déjà, comment ne pas passer à côté de l'épiphanie de notre Seigneur que nous avons fêté le 6 janvier. Très très belle fête, pleine de sens, et il faudrait toute une émission, voire même 10 pour en parler. Donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais par contre, en préparant ce récapitulatif, je me suis rendu compte de quelque chose d'un peu curieux, mais aussi assez sympa. C'est que depuis le début de l'année, on a fêté beaucoup de saints moines, à quelques jours d'intervalle. On commençait par exemple par le 15 janvier, où nous fêtions saint Paul ermite, qui a été révélé au monde par saint Jérôme. Il est parti à 15 ans dans le désert de Thébaïde en Égypte. Il a vécu pendant près d'un siècle ravitaillé par un corbeau. Il est mort en 341 et il fut le premier des ermites qui allèrent dans les déserts pour mener une vie de prière et de pénitence, donnant aux chrétiens l'exemple du détachement et de l'amour de Dieu par-dessus tout. Le même jour, le 15 janvier, nous fêtions aussi saint Maur, qui lui est arrivé un peu plus tard. Aux alentours du 6e siècle, il était un des disciples de saint Benoît. Il a été envoyé par sa famille pour être formé par Saint Benoît au service de Dieu. Et Saint Grégoire racontait comment, sur l'ordre de Saint Benoît, Saint Maur était un jour allé marcher sur les eaux pour aller retirer un de ses compagnons, Placide, qui était tombé pendant qu'il puisait de l'eau. Donc un épisode assez particulier et intéressant. Le 16 janvier, donc le jour d'après, nous fêtions Saint Honorat, qui est le fondateur de l'abbaye de Lérins. Et Enzo, est-ce que tu sais quelle est la particularité de l'abbaye de Lérins ?
Alors, pas du tout.
Alors, c'est une abbaye qui est un peu spéciale parce qu'elle se trouve sur une île non loin de Cannes. Donc, c'est une abbaye qui est encore vivante aujourd'hui, d'ailleurs, qui est encore active. Et donc, il y a encore des moines qui continuent de prier. Et Saint Patrick est aussi passé par cette abbaye. Donc, voilà, un lieu plein de sens et plein d'histoires. Et le jour d'après, le 17 janvier, nous fêtions Saint Antoine le Grand. Alors, Saint Antoine, c'est vraiment le père de tous les moines, hein, c'était vraiment un précurseur. Il est né vers 250 en Haute-Égypte. Saint Antoine entendit un jour dans une église le passage de l'évangile « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-en le prix aux pauvres, et puis viens et suis-moi. » C'est la parabole du jeune homme riche. Et il obéit sur le champ et se retira dans un désert d'Égypte. Il vécut d'abord comme un ermite, en menant une vie très austère pour vaincre les tentations dont le démon l'assaillait continuellement. Il n'hésita pas cependant à quitter ponctuellement sa solitude pour aller défendre la foi contre les hérétiques. Et un grand nombre de ses disciples se groupèrent sous sa direction. Antoine mourut presque centenaire, et son ami Saint Athanase écrit sa vie et le fit connaître au monde entier. L'extraordinaire enthousiasme que son exemple provoqua lui-même mérita le titre de père des moines. Satan redoute par-dessus tout la pureté du cœur, accompagné d'un tendre amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, disait lui-même Saint Antoine. Et donc c'est à peu près tout jusqu'à maintenant, et on se retrouvera un peu plus tard dans l'émission pour parler de Saint François de Sales, que nous fêterons cette semaine.
Et Saint-François de Sales, d'ailleurs, qui correspond bien à la radio, puisque c'est le saint patron des journalistes. Mais je pense que tu l'évoqueras un peu plus tard
bien sûr,
dans l'émission.
Évidemment, évidemment.
Et alors, il est 19h07 sur Radio Présence. On va vous laisser méditer justement sur la chronique de Louis-Marie avec « À toi notre louange », c'est l'ensemble de Saint-Jean sur Radio Présence.
Thank you.
Présence.
Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi guai. No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. No. Tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarò triste e stanca. Pensi solo.
Présence.
19h14, vous êtes toujours sur Radio Présence dans Sauf d'autre chose. On vient d'écouter La Bambola de Patti Bravo, une belle chanson italienne. Et pour la suite de l'émission, je repasse la parole à Enzo. Enzo, qu'est-ce qui nous attend maintenant ?
Eh bien alors, on va réécouter un entretien qu'on avait eu avec Cédric Beuchet, que vous connaissez hein, sur les ondes de Radio Présence, puisqu'il est aussi bénévole à Radio Présence Saint-Gaudens. Et on va parler du rapport justement entre les jeux vidéo et la foi.
Très bien.
Donc je travaille à l'université Toulouse Capitole à TSM Research, qui est un laboratoire de sciences de gestion.
Ouais.
Je suis administratif au sein de ce laboratoire et à titre privé, j'ai pour passion depuis quelques décennies maintenant les jeux vidéo, parce que j'ai grandi avec dans les années 80. Donc certes, je suis plus étudiant, mais je vis encore à l'université et je travaille à l'université. Donc je côtoie cette population régulièrement. Et en fait, j'avais envie de présenter, j'avais cette idée-là qui me trottait dans la tête de créer un club de jeux vidéo, de rétro gaming, donc de jeux vidéo anciens, parce que le jeu vidéo aujourd'hui a plusieurs décennies d'histoire. Et donc, dans le club, à la fois, on présente, on va dire, chaque réunion, un petit peu, chaque séance se divise en deux temps, hein, un temps consacré à l'histoire du média, qui est un peu qualifié du 10e art, enfin, qui est qualifié comme le 10e art. Et puis en fait un temps de jeu parce que bah il faut à la fois mêler l'utile et l'agréable. Et donc ces réunions sont mensuelles au sein du T Capitole à l'ABU de l'Arsenal.
Très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats à l'introduction de chaque nouvel art. La photographie, le cinéma, aujourd'hui le jeu vidéo, on se pose la question est-ce que c'est un art ? Il y a beaucoup de débats, mais bon, c'est clair que ça représente en tout cas un média de façon évidente qui transmet, on va dire, une information, qui fait passer un mode de pensée et une culture Donc c'est un peu ça aussi que vous voulez faire passer peut-être. C'est comment le jeu vidéo est-il un média pour faire passer du message, peut-être dans le contexte effectivement de l'évangile, de l'évangélisation, de la mission. Je ne sais pas si vous avez un point de vue, une approche par rapport à ça.
Alors on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais vous l'avez très bien dit Mathéo, c'est un média de transmission, parce que par exemple moi je suis papa de deux jeunes enfants, mes enfants ont aujourd'hui 10 et 8 ans, et donc on est confronté à la problématique écran en tant que parent, à la problématique de l'addiction aux écrans, à la problématique des jeux, comment jouer, comment cadrer, comment réguler, comment vivre avec et comment partager aussi, comment faire passer des messages. Et ce qui est intéressant, c'est que bah aujourd'hui j'avais envie de parler d'un ouvrage que j'ai repéré en fait à la librairie du monastère de Tournailles où j'étais en retraite, qui était un ouvrage du père Bertrand Monnier qui s'appelle en fait les 10 commandements du jeu vidéo, et qui est un peu une sorte de manuel de survie qui dit dans un premier temps bah voilà, le jeu vidéo pour certains il y a on va dire cette approche très binaire du jeu où vous avez une tuerie en masse, c'est la faute au jeu. Des fois on retrouve ça ou ces clichés là dans la culture nord-américaine souvent,
effectivement,
et parfois même dans d'autres lieux en Europe, mais c'est un petit peu réducteur. Et je trouve que l'idée en fait de mon club aussi, avant de parler du jeu vidéo comme terrain de mission, c'est de montrer que bah voilà, c'est un art à part entière, que c'est un art surtout avec les plus jeunes et moi qui suis parent qui doit s'encadrer. Donc il faut poser les limites, hein, c'est comme tout. Et pour poser des limites, il faut aussi s'intéresser à la question en tant que parent. Et bah c'est un petit peu alors déjà vis-à-vis des étudiants qui seront probablement des futurs parents dans quelques années, de poser quelques bases et d'avoir aussi en mode, ce que je disais tout à l'heure, utile et agréable, des briques pour réfléchir à comment je vais vivre avec les jeux vidéo, moi en tant que parent plus tard, comment partager aussi cette passion-là, puisque moi je la partage avec mes enfants aujourd'hui. Alors certes, sur des jeux vidéo anciens, sur des consoles qui ont quelques décennies aujourd'hui, mais ça, c'est mon centre d'intérêt. Mais je sais qu'aujourd'hui, vous avez la Switch 2, la PS5, vous avez plein de machines qui vous proposent des jeux d'une beauté magnifique, hein, avec des puissances de calcul, des moyens, des studios qui sont derrière chaque création. Parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est un art, mais c'est pas un art individuel, c'est un art en équipe. Qui vous propose des créations d'une beauté, ne serait-ce que les Assassin's Creed ou d'autres titres, hein. Alors même si ces jeux sont un petit peu éloignés parfois de la vision chrétienne, mais en termes de beauté, quand on admire un tableau par exemple, on peut ne pas aimer ce qu'il représente, mais aimer le travail qui est produit.
Il y a une performance artistique, hein, vraiment. On peut parler de performance effectivement quand on voit certains jeux vidéo. Mais du coup, si je vous suis bien, vous c'est plutôt le rétro, le jeu vidéo rétro. Est-ce que vous sentez une différence, un paradigme différent entre le jeu vidéo rétro et le jeu vidéo contemporain, moderne? Est-ce que vous trouvez plus intéressant pour certaines raisons le jeu vidéo rétro?
Alors déjà, le jeu vidéo rétro se vivait de manière solitaire. Alors solitaire et entre amis, c'est-à-dire on était réunis à plusieurs personnes physiques dans la même pièce autour d'une machine. Aujourd'hui, avec Internet, vous avez les jeux connectés, par exemple ce qu'on appelle les M-Porg, les jeux multijoueurs en ligne, les jeux multijoueurs massifs en ligne. Et en fait, Internet a en fait décentralisé et étalé les jeux. Et vous avez plein de jeux, on peut citer World of Warcraft, mais par exemple Call of Duty, vous avez des jeux comme Fortnite qui se jouent de manière en ligne. Et des fois, alors c'est marrant parce que les personnes sont solitaires derrière leur écran mais n'ont jamais été aussi connectées à d'autres. Et c'est peut-être là que nous, en tant que chrétiens, on a un rôle à jouer pour la mission.
Très bien, oui, c'est une vision vraiment intéressante parce que c'est pas très répandu ce genre de discours. C'est vrai que le jeu vidéo, on a tendance à l'opposer peut-être aux valeurs chrétiennes puisque c'est vu comme quelque chose de moderne, de nouveau. Donc il va un peu bousculer les codes, faire bouger les lignes. Donc c'est vrai, quand on est ancré dans une tradition comme la tradition chrétienne, on peut être un peu dubitatif, pour peut-être avoir peur même, hein, de ces nouvelles arrivées, on va dire, dans le monde culturel. Et c'est vrai que du coup, c'est comme vous le disiez, c'est intéressant de s'en emparer, de connaître, hein, parce que le savoir, la connaissance, c'est le début de tout pour pouvoir accompagner les jeunes, encadrer, mieux comprendre la direction vers laquelle on se dirige. Donc c'est vraiment très intéressant comme démarche, que ce soit avec vos enfants ou avec votre club. On le comprend tout à fait. Et du coup, par rapport au livre dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, dans les 10 commandements, quelles sont les idées fortes qui ressortent, si vous pouvez en citer un ou deux, par exemple, bon, pour qu'on puisse s'y situer?
Déjà, le Père Monnier, quand il parle du jeu vidéo, il l'inscrit dans un média du 21e siècle, et il l'inscrit comme média. Donc, comme je disais tout à l'heure, le jeu, c'est un média de transmission, et avec lequel on transmet, nous, de parents vers enfants, parce qu'on sait souvent que les jeux vidéo, c'est un objet de conflit entre parents et enfants en matière d'éducation. Bon, les jeux vidéo ne sont qu'une activité parmi ce que font les enfants derrière les écrans. On peut citer l'Internet, les réseaux sociaux, l'écoute des plateformes musicales, etc. Et c'est vrai que j'ai pas forcément le pourcentage en temps d'écran passé par enfant à jouer aux jeux vidéo, parce qu'il n'y a pas que cette seule activité-là. Bien sûr. Il y a malheureusement d'autres activités qui sont plus tristes et qui font que malheureusement il y a des départs des fois un peu tragiques.
Effectivement.
Donc c'est important aussi de le dire. Mais les jeux, c'est aussi un moment. Bah déjà, il y a le mot jeu vidéo. Le jeu, c'est un amusement. C'est un temps qui permet de s'évader du réel. Mais c'est un temps qui ne doit pas, et c'est là où on va aller vers l'addiction, devenir une fuite du réel. C'est juste un temps d'évasion pour revenir au réel ultérieurement. C'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, que le temps de jeu doit être cadré.
Oui.
Et c'est aussi, aux parents, alors après, je pense, d'instruire leurs enfants jeunes, parce que la pratique du jeu vidéo que les enfants auront plus tard, et nos étudiants qui nous écoutent ici et maintenant, ont été des enfants autrefois, et s'ils n'ont pas été peut-être suffisamment bordés, cadrés, se retrouvent avec des temps de jeu importants qui peuvent nuire à leurs études et peut-être à leur future insertion professionnelle. Donc c'est vrai que les parents ont c'est la responsabilité d'être parent tout simplement dans plein de domaines et dans le jeu vidéo, mais c'est comme le jeu en général quelque part, parce que le jeu vidéo, c'est l'écran, bien sûr, mais le jeu, c'est aussi l'amusement. Et puis un enfant, finalement, il aura toujours plus envie de s'amuser que de travailler ou de faire ses devoirs. C'est naturel. Et un étudiant, c'est pareil. Donc d'emblée, un étudiant ou une étudiante, d'ailleurs, peu importe, parce qu'il faut pas avoir une représentation sexiste du jeu. Je pense qu'il y a autant de gamers ou de gameuses qui sont présents dans le jeu. Et donc, il faut savoir border pour rester dans l'évasion et pas dans l'échappement, fuite dans un monde virtuel, parce que de toute façon, le retour au réel sera toujours plus dur si le temps de jeu est long. Et c'est comme avec les enfants, plus vous jouez, plus l'enfant aura envie de jouer, in fine. Donc, je veux pas dire que le joueur est un enfant. Et je ne veux pas dire cela, et je le dis bien devant vous à l'antenne, parce que aujourd'hui, le jeu vidéo a atteint un tel niveau de maturité que dans les évolutions, dans certains types de jeux, il faut vraiment être un adulte pour jouer. Il n'y a pas de jeu. Il y a effectivement des jeux pour les enfants, des jeux pour les adultes. Ça, il y a des jeux à tranche d'âge. Mais le jeu est vraiment, on va dire, pour moi, un média de transmission dans un premier temps, un moment de partage avec son enfant ou ses enfants, et d'ailleurs quel que soit le sexe, et ensuite un moment où peut-être il faut investir ce média-là pour nous en tant que chrétiens et qu'Église catholique, parce que la question que vous posiez tout à l'heure, c'était celle du progrès.
Oui.
Et en fait, plus derrière, moi j'aime beaucoup dire à un moment quand Jésus-Christ était dans l'Empire romain, pour moi c'était un grand provocateur. Il bousculait les codes.
Absolument.
Il a bousculé la foi. Et je trouve en fait que finalement, chaque grande étape, c'est comme l'imprimerie, quand elle est arrivée au XVIe siècle, Gutenberg, il a fait peur. Parce que c'était la diffusion des savoirs et l'Église avait aussi peur de perdre sa position. Mais finalement, accompagner une évolution technique, on l'intègre. Et finalement, elle devient elle-même un instrument d'évangélisation. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est de travailler avec le progrès et de mixer tradition et modernité.
Très intéressant et pas évident, parce qu'on sait que la technologie peut nous échapper. On a peut-être des exemples. On a des critiques, typiquement des sociologues, hein, comme Marshall McLuhan, qui a fait une critique du type, en fait, l'information, c'est le média en lui-même, c'est le support du média, en fait, comment dire, et en lui-même idéologique. Il peut y avoir des questionnements de ce genre qui peuvent se poser. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Après, pour mieux cadrer, peut-être, de quel type de jeu on parle quand, dans vos passions, quels sont les types, les genres de jeux, parce qu'on sait qu'il y a les jeux de course, les jeux de combat, les jeux de stratégie. Pour mieux cadrer vos jeux rétro.
Alors moi, à titre personnel, je suis fan de jeux de plateforme. Donc hein, c'est Mario, Sonic, le petit bonhomme qui court, qui saute, voilà. En fait, moi quand je suis joueur, j'ai besoin de savoir, de prendre en main un jeu immédiatement. Je ne dois pas passer plus de 2 à 3 minutes à comprendre comment un jeu fonctionne. Après, vous avez des jeux qui sont nettement plus complexes, hein, des jeux de gestion, des jeux à guilde, qui sont extrêmement... comment dire, où il faut acquérir de l'expérience pour comment dire profiter pleinement du jeu. Alors moi c'est pas cette idée là. Et puis c'est vrai que dans un club de jeux vidéo, vous avez des séances de 2 heures ou même d'une heure et demie, vous avez pas le temps de permettre la prise en main à des jeux longs.
Ouais.
Et donc en fait finalement des jeux de plateforme, des jeux de course automobile, bien qu'il y ait des jeux de course automobile très complexes, mais les jeux de rétro de course automobile d'autrefois,
arcade.
Des jeux d'arcade, vous aviez un bouton pour accélérer, un bouton pour freiner, la petite manette pour diriger et puis on était bon quoi. C'est-à-dire que vous mettiez votre pièce et feu Chatterton, c'est parti quoi. Alors que maintenant, bon, aujourd'hui vous pouvez customiser votre voiture, la régler au boulon près avec tel chevaux, tel pot, la peindre de telle manière, vous pouvez la personnaliser. Enfin, en fait, il y a presque dans la complexification du jeu vidéo aujourd'hui et dans l'introduction du personnage dans le jeu s'il devient un média support, cette volonté, on va dire, de comment dire, que le jeu devienne un prolongement de vous, et donc vous êtes inclus dans le jeu. Alors que dans les jeux plus anciens, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'avait pas peut-être aussi cette complexité-là ou cette volonté-là aussi. Hein, ça, il faut pas oublier que quand on parle de médias de transmission, de médias de mission, c'est avant tout un média. Et quand les éditeurs font des jeux, bah, c'est avant tout un produit. Oui. C'est avant tout un produit qui doit faire du bénéfice. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi parfois une politique qui sous-tend le média. Donc il faut aussi avoir un petit peu ce recul là. Et effectivement, vu le florilège constant des titres qui sortent, alors on n'est pas comme dans la rentrée littéraire pour les jeux vidéo, mais on a quand même des productions qui sont annoncées à cadence soutenue. Alors bien évidemment, on peut pas être passionné de tous les sujets tout le temps pour suivre l'actualité en continu et de ce qui sort tout le temps. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose, est prégnant chez nos adolescents, nos enfants et les étudiants qui nous écoutent. Et in fine, si on veut rester maître de quelque chose, il faut au moins s'intéresser à cette chose.
Se pencher effectivement sur le sujet. Et pour parler des jeux vidéo en rapport avec la mission, est-ce que vous avez des exemples de jeux vidéo qui rentreraient, on va dire, dans un paradigme chrétien, qui seraient porteurs de certaines valeurs, de certains principes? Est-ce que ça existe? C'est la question qu'on peut se poser.
Alors, en fait, il y a deux manières de répondre à votre question. La première, ça pourrait être de construire vraiment des jeux à vocation, je vais pas dire religieuse, mais spirituelle, qui questionnent la morale, des grandes questions de la Bible, le bien, le mal, et donc d'emblée proposer des jeux qui soulèvent ces questions de manière, parce qu'en fait je vais m'éloigner un petit peu, on va dire, de la spiritualité et de la religion, mais si on prend la Bible comme un mythe, la grande, et là je m'excuse auprès de nos auditeurs qui peuvent un petit peu avoir les oreilles qui frisent, mais les jeux vidéo actuels sont sous-tendus par des grands archétypes. Ces grands archétypes, quels sont types? Eh ben, ce sont les mythologies et les grands textes qui fondent notre civilisation. Parmi ces grands textes, il y a la Bible. Et donc, de facto, les éditeurs qui conçoivent aujourd'hui les jeux, pour faire adopter les jeux que eux conçoivent, vont s'appuyer sur ces archétypes. Oui. Mais c'est les mêmes schémas qui sont présents dans la littérature, dans le cinéma, qu'on va retrouver dans l'heroic fantasy notamment. Et en fait, dans le jeu, pour répondre à votre question, par exemple, on pourrait imaginer, on prend Minecraft, qui est un jeu de construction. Et donc d'imaginer, bah voilà, je bâtis la plus maison, la maison la plus solide pour dire, bah voilà, ma maison, elle est bâtie sur le roc. Donc on peut imaginer plein de parallèles, voilà. Si vous voulez, il y a plein de versets bibliques qui pourraient faire référence à des jeux modernes et en plus à jeux sur internet. Là, je sors un petit peu du rétro, mais des jeux contemporains qui font appel à des versets bibliques sur lesquels on peut s'appuyer. Après, moi, je pense que, par exemple, ce qui est intéressant, c'est déjà imaginer dans des jeux à guildes, créer des groupes de joueurs avec des joueurs qui partagent un ensemble de valeurs communes. Et dans chaque guilde, il y a souvent un leader. Alors, le terme est un peu galvaudé, enfin mal choisi. Ouais. On va dire un référent. Je pense que c'est peut-être le terme le plus idoine. Pas un leader, bon, peut-être que dans certains jeux, ça s'appelle ainsi. Mais dans tous les cas, un référent. Et on va dire, bon, voilà, ce référent est quelqu'un qui anime avec bienveillance, résilience, des joueurs qui partagent les mêmes valeurs et qui vont se retrouver et former. Et quelque part, ça se fait naturellement. Je pense parce que souvent dans les jeux, vous avez des services de messagerie instantanée.
Oui.
Et puis en fait, bah, les gens vont commencer à dialoguer entre eux. On peut citer les serveurs Discord, hein, par exemple, qui sont un grand support de messagerie instantanée pour les jeux. Et là, comment dire, bah, les joueurs vont se retrouver naturellement, se fédérer, créer des guildes dans des jeux. Et puis, je pense que bah, voilà, c'est déjà un premier aspect. Après, un deuxième aspect, par exemple... Bah, souvent, les jeux sont des passions partagées. Donc, moi, j'ai, on va dire, quelques décennies aujourd'hui. Et j'ai grandi avec les jeux vidéo. Ma première console, je l'ai eue en 1987. Mais mes premiers contacts avec les jeux vidéo, c'était sur Amstrad CPC 6124 au début des années 80.
Okay.
Et pour vous donner même un exemple, c'est à titre d'anecdote, je jouais aux jeux vidéo chez ma grand-mère parce que la première télé que j'avais n'avait pas de prise Péritel. C'est une télé noir et blanc avec des potentiomètres. Et en fait, même ma grand-mère qui avait, son fort caractère, et je lui rends hommage ici sur les ondes, et elle m'entend de là-haut certainement, elle avait compris un truc, c'était le temps de jeu. Et en fait, j'avais un temps de jeu bordé d'une heure chaque semaine, les week-ends, parce que je pouvais jouer chez elle que les week-ends où je me rendais chaque semaine. Et en fait, elle arrivait à un moment, elle disait rien. Elle débranchait la prise et bim! Et là, vous êtes dans votre super partie en pleine progression. Ah, bien évidemment, il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque les consoles.
Ah, en plus.
Et donc là, je me dis, vous galérez sur ce passage depuis 6 mois. Et là, par je ne sais quel truchement, vous y arrivez d'un coup. Et là, bim! Paf!
Tout en refaire.
Plus de courant. Ah là, je jure que vous étiez. Et en fait, ça vous apprend aussi à gérer la frustration.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. On va passer la parole à Louis-Marie tout de suite.
Je vais juste rebondir un peu sur le sujet parce qu'on parlait du coup des jeux vidéo comme terre de terrain. Et moi, j'avais quelque chose qui m'est venu en tête. C'était justement sur les jeux en ligne. Par exemple, vous citez Minecraft, où il y a souvent des serveurs qui sont ouverts où les gens peuvent se retrouver. Et en fait, souvent, on constate, enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer, c'est que parfois des gens vont se regrouper en communauté pour construire des grandes cartes, pour faire des œuvres d'art sur ce jeu-là, et notamment des églises. Et en fait, souvent, on se retrouve à avoir sur des serveurs des groupes comme ça, des groupes d'amis qui se forment autour de ces constructions-là, et justement, d'utiliser le jeu vidéo comme terrain d'évangélisation, en proposant du beau et en partageant leur foi par ce média-là.
En fait, je pense que tout média, en fait, la mission, elle est multiple, et je crois qu'il faut savoir, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des canaux très très variés, et de savoir utiliser les jeux vidéo ou d'autres canaux. Là, ici, nous sommes sur Radio Présence. Nous utilisons les ondes pour aussi faire partager notre foi, notre spiritualité. Et en fait, il faut ne rien négliger, mais encore pour ne rien négliger, un, il faut savoir que ça existe, deux, s'intéresser à la question, trois, la limiter dans certains cas, parce qu'il faut pas oublier que le jeu vidéo peut devenir une addiction, et qu'il faut aussi dire que si addiction il y a aussi des services d'addictologie, hein, qui existent même au CHU ici à Toulouse, qui peuvent permettre les parents de gérer ou de mieux appréhender la relation que leur enfant entretient avec leur jeu. Et ça, c'est aussi un message que je veux faire passer. Ne pas hésiter à faire passer, à ne pas hésiter à solliciter de l'aide quand, on va dire, le joueur, donc ça peut être vous, moi, vit le jeu non plus comme une évasion temporaire, mais comme une fuite continue. Et là, ça veut dire qu'il y a décrochage du réel.
Ouais.
Et quand il y a décrochage du réel, il faut vraiment faire attention. Bon, pour les adolescents, hein, c'est assez classique. C'est enfermement, c'est manque de sommeil, irritabilité forte. Voilà. Et puis bon, de toute façon, après, ne serait-ce que pour gérer, de toute façon, souvent, il y a une box internet par maison. Il est possible aussi de border. Alors après, ça nécessite un petit peu de s'intéresser à la question de comment fonctionne sa box internet, mais de dire tel appareil se connecte sur la box et donc de telle heure à telle heure, et donc de limiter techniquement les choses. Ça pénalise pas l'enfant, ça ne pénalise pas en tout cas l'utilisateur. Il connaît ses écrans. C'est pas du contrôle parental encore, c'est juste de l'utilisation de la box. Et si vraiment vous êtes encore plus prudent vis-à-vis du jeu. Vous avez les logiciels de contrôle parental, hein. Voilà, c'est quelque chose qui existe. Mais surtout, ne pas hésiter à solliciter de l'aide. Et donc, je pense aux services d'addiction, ou même, par exemple, moi, je laisserai mes contacts sur Radio Présence juste pour parler. Alors, je suis pas psychologue, je suis pas payé pour ça, mais je suis passionné,
parfait,
en fait, du rapport qu'on entretient avec la technique, un peu comme Jacques Ellul, qui était aussi un grand philosophe du 20e, qui a étudié très fortement le progrès et quel est le rapport que l'homme entretient à ce progrès. Et aussi le progrès et ses dérives. On pourrait parler d'intelligence artificielle peut-être dans le jeu vidéo, ou de tout un tas de choses que moi je maîtrise pas, parce que je me suis limité à la case rétro gaming par le club, mais de facto je m'intéresse à tout le, on va dire, le, j'allais dire le marché du jeu, mais on va dire l'évolution du média jeu vidéo comme objet, parce que je trouve que finalement, c'est à la fois un média incontournable pour l'Église catholique comme terrain de mission, et puis aussi connaître ses évolutions, peut-être pour se prémunir ou éviter de dire attention, là il y a danger, ou peut-être accrocher l'attention des responsables ou même des étudiants qui nous écoutent. Attention, s'il y a ça, peut-être soyez prudents.
C'est ça, c'est le problème des technologies un peu nouvelles, hein, Jacques Ellul en parlait, c'est qu'en fait, on ne maîtrise pas totalement les conséquences. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur chez certains parents, les jeux vidéo, parce que ça peut leur échapper, hein. Ils ne connaissent pas, ils n'ont peut-être pas forcément grandi avec, et il y a cette crainte des fois de voir un enfant qui s'isole, hein, comme le phénomène... comme on dit en japonais, hikikomori, des jeunes qui vont peut-être s'enfermer dans leur chambre à jouer toute la journée, etc. Donc c'est vrai que c'est important de dialoguer, je pense déjà, de communiquer, comme vous le faites, comme est votre démarche, et vraiment peut-être à plus grande échelle, hein, parce que c'est une question qui aujourd'hui est de plus en plus à une grande échelle. Voilà, comme vous parliez tout à l'heure de la du rythme de sortie des jeux vidéo qui est toujours plus accéléré. En réalité, on a de plus en plus de jeux vidéo, je crois, hein, qui sont produits. Et donc, c'est vrai qu'aussi, il y a les débats sur les valeurs que vont transmettre ces jeux. Vous parliez d'Assassin's Creed tout à l'heure, que je connais un petit peu. Je crois que, d'un point de vue chrétien, il y a des contentieux. C'est ça, si vous voulez bien m'éclairer là-dessus ?
On va dire, la morale du jeu est un petit peu aux valeurs, on va dire, aux opposés des valeurs morales chrétiennes. Après, le jeu est magnifique, ce sont des vraies œuvres d'art. Mais dans l'absolu, je suis pas là pour condamner ou de dire vous devez jouer à tel ou tel jeu. Ça, c'est de la responsabilité de chacun, et je pense que chacun est suffisamment éclairé et instruit. Et c'est un peu aussi le but de cette émission de ce soir, de dire que voilà, le jeu, c'est quelque chose auquel on peut s'intéresser. Et puis suffit par exemple pour les parents qui achètent un jeu vidéo à leur enfant ou à un étudiant qui ne connaîtrait pas un jeu, de taper le titre du jeu vidéo dans YouTube et de regarder une démo du jeu et de voir comment vous rentrez en résonance. Moi, par exemple, je peux donner un exemple. Il y a quelques années, la console Switch de Nintendo est sortie et il y avait une adaptation de Mortal Kombat sur ce jeu. Donc un jeu à la Street Fighter 2, mais beaucoup plus sanguinolent et violent.
La bagarre bien
et en fait, c'était limite gore, on va dire. Ouais, limite d'accord. Un peu... sur ce qu'on appelle les fatalités, c'est des coups spéciaux pour achever son partenaire et le mettre KO. Mais c'était vraiment la spécialité du jeu. Ils ont axé là-dessus.
Très visuel.
De visuel, sanguinolent, à déchirer les tripes de la personne. Donc, quelle valeur, déjà chrétienne, on met face à ça. Ouais. Et je vais être franc avec vous, c'est pourtant j'y ai joué comme majeur. Hein, comme je disais, quelques décennies. La Switch est sortie il y a 8-10 ans, donc j'avais la trentaine. Et c'est un jeu qui m'a fait faire des cauchemars.
D'accord.
Ça veut pas dire que un jeu, même en tant qu'adulte, ne vous marque pas. Ce serait une ineptie. C'est pour ça que je veux dire, on a cette chance en tant que chrétien d'avoir le libre arbitre. C'est une des valeurs fondamentales de notre foi. On est libre et on essaye d'être éclairé et donc de s'instruire. Et donc face à n'importe quel jeu, il faut regarder comment on raisonne. Et voilà. Et je pense que en tant qu'étudiant, il appartient. Ce sont des jeunes adultes. Hein, et puis après tout, c'est aussi un exercice de recherche d'information en tant qu'étudiant. Et ça, je trouve ça pertinent parce que quelque part, ça permet d'exercer l'esprit critique. Premièrement. Mais d'un autre côté, en tant que parent. On a tous un téléphone portable, hein, on a tous probablement que ce soit tel système pour pas faire de publicité à l'antenne, une application de vidéo fait par un très grand moteur de recherche qui existe, de taper le nom du jeu dans ce moteur et de regarder ce qui se passe. Après, il y a aussi une classification qui existe, c'est la classification PEGI.
Oui, les PEGI.
Et donc les PEGI, ce sont des classifications d'âge. Alors, elle peut être discutable, bien sûr, comme toute classification, mais elle peut servir de repère.
C'est un indicateur.
C'est comme le Nutri-Score, on va dire. C'est le Nutri-Score, mais version violence des jeux. C'est comment est-ce qu'il y a une application au UK des jeux vidéo? Peut-être que ça pourrait être super intéressant.
Bonne idée.
De proposer à des ingénieurs de l'INSA, par exemple.
au hasard,
je sais pas, je dis rien. De développer ce genre d'outils. Ouais. Et en fait, t'as Malou, t'as mon jeu. T'as mon jeu. Et t'as mon jeu, ça veut dire quoi? C'est une application qui serait de dire, comme un Nutri-Score, en fonction des variables que vous avez rentrées. Voilà ce que ça vaut et la grille de lecture. Et puis de faire, et il existe en plus des bases de données de jeux vidéo sur lesquelles tous les éditeurs mettent, on va dire, un certain nombre de métadonnées qui pourraient s'interfacer. Et donc de rapatrier ces mêmes données, de proposer à l'utilisateur un Nutri-Score, une sorte de note de jeu. Alors après, est-ce qu'on pourrait imaginer, un Yuka du jeu chrétien? Pourquoi pas, hein, parce que ça pourrait exister aussi.
Oui,
on pourrait imaginer ça. Il y a plein de choses. En fait, c'est le jeu, c'est un média de transmission, c'est un média de mission et c'est aussi un média de tous les possibles parce que c'est le numérique.
Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette intervention extrêmement intéressante. Et puis, on va poursuivre sur la suite de l'émission en espérant vous retrouver peut-être bientôt. Bonne soirée.
Merci à vous.
Présence.
J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien, si j'en avais un. J'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin, j'ai bien plus cher à faire. Bam, dabadabam. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots que nous taisons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux et attendre la prochaine, remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin. Écoulent nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passent les jours et puis les semaines, bam badabadam. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime. J'aurais pu traîner le long de mes rêves. J'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève. Bandabadaba. On devrait dire aux gens quand on les aime. Trouver les phrases, trouver le temps. Qu'ils changent nos heures amères en poèmes. On devrait tous se dire avant. Il faut le dire aux gens quand on les aime. Comme ils comptent pour nous chaque instant. Les mots doux et tant qu'il est temps.
h46 sur Radio Présence, c'est le retour de Soif d'autre chose. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et on retrouve Louis-Marie. Louis-Marie, tu veux nous parler de Saint-François de Sales, un saint qu'on connaît bien ici à Radio Présence puisque c'est le saint patron des journalistes.
Et oui, tout à fait. En plus, souvent on le représente habillé en bleu, donc ça correspond aussi aux couleurs de Radio Présence, donc c'est parfaitement dans le thème. Donc Saint-François de Sales, on est au tournant du 16e et 17e siècle, dans une époque qui est marquée par de profondes divisions religieuses, des tensions, des polémiques et parfois des violences aussi. Et au milieu de ce contexte difficile, François de Sales va tracer un chemin original et profondément évangélique, le chemin de la douceur, de la patience et de l'amour. Il était évêque de Genève, mais résidait à Annecy à cause de la réforme protestante. François de Sales n'est pas un homme de confrontation agressive, mais il est convaincu que l'on ne gagne pas les cœurs par la force, mais par la charité. Et derrière d'ailleurs une phrase assez célèbre, on prend plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec 100 barils de vinaigre. Cette intuition traverse toute sa spiritualité, une sainteté pour tous, et l'un des plus grands apports de Saint François de Sales, c'est d'avoir affirmé avec force, une idée révolutionnaire pour son temps, c'est que la sainteté n'est pas réservée aux moines, aux prêtres ou aux religieuses, elle est possible et même appelée pour tous les baptisés, quel que soit leur état de vie, leur métier et leur responsabilité familiale. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver encore aujourd'hui et qui est tout à fait d'actualité. Et c'est précisément le cœur de son œuvre la plus connue, l'Introduction à la vie dévote, publiée en 1609. Et contrairement à ce que le titre pourrait laisser croire, ce livre n'est pas destiné à des âmes retirées du monde, mais il s'adresse à une femme laïque, Philothée, un nom symbolique qui signifie « amie de Dieu », et à travers elle, cet ouvrage s'adresse à chacun d'entre nous. Saint François de Sales écrit en substance « Il est une erreur, une hérésie même, de vouloir bannir la vie dévote de la vie des gens mariés, des artisans et des soldats. Autrement dit, on peut aimer Dieu profondément au cœur de la vie ordinaire, une spiritualité de l'amour et de la liberté. » Et la spiritualité de Saint François de Sales repose sur une conviction fondamentale, Dieu est amour, il attire l'âme avec douceur et jamais par contrainte. Pour lui, la vie spirituelle, ce n'est pas d'abord une accumulation d'exercices, mais une relation vivante avec Dieu, nourrie par la prière, par les sacrements et surtout par l'amour. Il insiste beaucoup sur les libertés intérieures, Dieu respecte notre rythme, nos fragilités, nos combats. François de Sales invite à ne pas se décourager de ses chutes, mais à se relever humblement et avec confiance. Il écrit cette phrase pleine de tendresse « Ne vous troublez jamais de vos bras imparfaits, mais travaillez à vous améliorer paisiblement. » Quelle actualité pour nos vies, souvent marquées par la culpabilité, la performance spirituelle ou le découragement. Si l'on peut résumer un peu la spiritualité de Saint François de Sales, en un mot, ce serait sans doute la douceur envers Dieu, la douceur envers les autres, mais aussi, et c'est l'essentiel, la douceur envers soi-même. Attention, il ne s'agit pas d'une douceur, ou d'une tiédeur, mais la douceur salésienne est une force maîtrisée, une charité ferme mais bienveillante. Elle s'enracine dans l'humilité et dans la confiance dans la miséricorde divine. François de Sales savait de quoi il parlait. Il avait un tempérament naturellement vif et colérique, et sa douceur était le fruit d'un long combat intérieur et d'une grâce accueillie chaque jour. Un saint pour nous tous aujourd'hui, c'est le saint patron des journalistes, comme on l'avait dit, et des écrivains catholiques. Saint François de Sales nous rappelle que les mots peuvent être des instruments de paix, de vérité et de consolation. Dans un monde souvent dur et polarisé, rapide à juger, son message reste prophétique. Annoncer l'évangile avec clarté, mais aussi avec bonté. Chercher la vérité sans jamais perdre la charité. Et donc, chers auditeurs, aujourd'hui, que Saint François de Sales nous aide à découvrir ou à approfondir cette vie dévote dont il parle si bien, qui n'est pas une fuite du monde, mais c'est une manière de l'habiter avec Dieu, être dans le monde, mais pas du monde, là où nous sommes, tel que nous sommes, et rappelons-nous cette invitation simple et lumineuse, soyez ce que vous êtes et soyez le bien pour la gloire de Dieu.
Merci beaucoup Louis-Marie.
Avec plaisir.
À Broadway, ça swing comme à Meudon. On s'effonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire débordé sur la 42e. On rigole et on danse comme à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la 50e. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, y a des chiens dans les bars. Quand arrivent les nanas, quand on est au complet, on décerne les Oscars. C'est peut-être pas les vrais de vrais, les nanas de Broadway. Oui, mais c'est ça qui plaît. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on dort sur les trottoirs. Quand on nous sort de là, c'est un coup de balai, un grand coup d'arrosoir. Et on ne sait plus à midi si l'on est à Clichy ou en Californie. We'll be right back.
se défend, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du bonbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la Java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît, elle est teintée de blues et de jazz et de rock. C'est une Java quand même. Quand on est 10 ou 12, quand les vers s'entrechoquent, on ne voit plus les problèmes. Oui, mais c'est elle qui plaît quand on fait la Java le samedi à Broadway. Ça signe comme un doudou. On se défonce, on y va, pas besoin de Beaujolais. Quand on a du bonbon, on va t'en comprendre. C'est peut-être pas la vraie de vrai. Voilà la vraie de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît quand on fait la Java le samedi.
19h57 sur Radio Présence, c'est déjà la fin de Sauf d'autres choses, votre émission. On se retrouve la semaine prochaine, Louis-Marie. Avec le micro allumé, c'est toujours mieux.
Je disais, avec grand plaisir.
Alors, on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio Présence. Merci d'être fidèle à votre émission présentée par la paroisse étudiante de Toulouse. Vous retrouvez dans quelques instants les titres d'information nationale, puis des clés pour vivre avec Nathalie Cardon, les rues de Toulouse. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Présence. À la semaine prochaine.
Au revoir.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.